Soyez au cœur de l'info sur...
Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Ravi de vous retrouver pour À votre avis, votre émission interactive au micro Nanit Talani depuis le studio 9 de la VOA à Washington. La 26e conférence internationale de l'ONU sur le climat, COP26, s'est ouverte hier 31 octobre à Glasgow au Royaume-Uni. Considéré comme crucial, ce sommet est présenté comme la dernière occasion de pouvoir parvenir à limiter le réchauffement climatique de la planète et de pouvoir sauver la Terre de ses effets désastreux. Que pensez-vous de la conférence de Glasgow? Comment le changement climatique vous affecte-t-il? Citez des effets du changement climatique sur votre pays. Avez-vous jamais planté un arbre? Que faire contre le réchauffement climatique? Vous avez laissé vos coordonnées sur notre page Facebook, celle de VOA Afrique. Pour vous exprimer, si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours nous appeler au 001-202-205-2633. 001-202-205-2633. Alors, la conférence sur le climat, donc les dirigeants du monde se réunissent depuis dimanche en Écosse pour participer à cette conférence des Nations Unies qui est présentée comme la dernière occasion de sauver la planète des effets désastreux du changement climatique. Cette conférence a été retardée d'un an en raison de la pandémie de coronavirus. Cette COP26 vise principalement à maintenir l'objectif de limiter l'élévation des températures sous les 1,5 degrés Celsius. Cette limite, selon les scientifiques, devrait permettre d'éviter les conséquences les plus destructives du changement climatique. Et pour atteindre cet objectif fixé lors de la COP21 qui s'était tenue à Paris en France en 2015, il faudra donc un élan politique et des efforts diplomatiques considérables pour compenser l'insuffisance des actions et les promesses vides qui ont caractérisé la majeure partie de la politique climatique mondiale. Et cette conférence doit aussi permettre d'obtenir des engagements plus ambitieux pour réduire davantage les émissions, de bloquer des milliards de dollars de financement pour le climat et de finaliser les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris avec le consentement unanime des quelque 200 pays qui l'ont signé. Alors sur Facebook, nous avons eu des réactions de quelques personnes en attendant que nous puissions vous joindre tout à l'heure au téléphone. Nous avons Salé Mahamat qui nous a écrit depuis le Tchad. Il affirme que son pays est le plus exposé au réchauffement climatique et pourtant sur la vulnérabilité climatique, 186 pays, donc c'est le Tchad qui a été classé comme le plus dangereux. Maintenant, en attendant le Tchad, nous allons nous rendre à Kinshasa pour discuter avec Ben Benoît. Bonsoir Ben Benoît le Congolais.
Bonsoir, madame journaliste.
Alors, comment ça va à Kinshasa? Merci bien. Comment ça va à Kinshasa?
À Kinshasa, c'est au fièvre de grève et de pourparler des ententes pour la rentrée scolaire effective.
Merci beaucoup. Alors, pour aujourd'hui, nous parlons du réchauffement climatique et vous avez écrit que les pays des Grands Lacs ne devraient normalement jamais connaître ce problème de réchauffement climatique. Pourquoi dites-vous cela?
Oui, comme vous le savez de vous-même, c'est après l'Amazonie, c'est notre forêt équatoriale, vous le savez bien. Mais ce que nous sommes en train de voir est que les idées et les décisions viennent que de l'Occident. Alors que c'est nous qui détenons notre matière première qui doit être aidée, et le monde et les Congos en particulier, sur le problème des réchauffements climatiques. Et si vous essayez de voir, même aujourd'hui, le président de la République est décerné comme étant le président le plus faible de l'Afrique. Ce n'est pas parce qu'il est en train de faire des actions concrètes sur le plan social en RDC non plus. C'est peut-être à cause de cela que les Occidentaux l'ont désigné pour, attirer ses masses à curiosité, afin qu'il arrive à céder cette histoire pour qu'on arrive à trouver des solutions par rapport au réchauffement climatique dans le monde à travers notre forêt équatoriale. Mais ça veut dire, c'est-à-dire la deuxième bassin après l'Amazonie. qui existe au monde. Et sans cela, vraiment, le monde n'allait pas exister. Si vous regardez bien, beaucoup d'appareils sur notre planète qui sont en train peut-être de voler notre oxygène pour utiliser dans d'autres pays que nous ne savions pas. Pourquoi ? Parce que nous manquons de matériel et nous manquons aussi de savants ou des ingénieurs qui peuvent peut-être faire des recherches par rapport à cela.
Ben Benoît, je retiens dans votre allocution que vous dites que les décisions viennent seulement de l'Occident. Qu'est-ce qui empêche que ces décisions viennent de l'Afrique et plus particulièrement des pays des Grands Lacs dont vous faites mention?
D'accord. Je commencerai par vous dire, notre système éducatif ici, c'est juste sur les théories. Ce n'est pas sur les pratiques qu'on est en train d'apprendre aux gens. Nous, nous sommes forts en écrivant des lettres, en faisant des recherches, des emplois. Mais nous n'avons pas des entrepreneurs ou soit des ingénieurs ou des astrologues qui ont la quête, notamment bien faite, pour arriver à concrétiser cela. Ça, c'est de un. De deux, l'Occident n'arrive pas à nous laisser libres que nous puissions prendre de nous-mêmes des décisions. Il n'y a que des dictats. C'est-à-dire, si on cherche à faire cela dans tel domaine, on arrive à nous dicter, vous devez faire ça, si vous refusez, il y aura la guerre, on va vous faire ça, on va vous faire le président, sera déchu, machin, machin. Et c'est ce qui arrive vraiment à égayer le monde. Et moi, j'arrive vraiment à me demander, si réellement l'Occident peut nous demander d'être indépendant, comme on nous avait dit depuis 1960. Mais aujourd'hui, nous voyons que nous continuons toujours à être indépendants, sur tous les plans.
Alors,
nous sommes dépendants sur tous les plans. Voilà.
Alors, sur Facebook, vous avez aussi mentionné la sensibilisation de la population au changement climatique. Qui devrait faire cette sensibilisation?
Voilà. Le gouvernement congolais, à travers son ministère de l'Environnement, que Mme Eve Bazaïd est en train de diriger, doit prendre des initiatives sur cette sensibilisation et mobilisation de la population de la RD Congo. Vous savez quoi, madame? La RDC a des potentialités énormes. Mais ce que nous manquons, c'est juste des initiatives et juste l'apprentissage sur tous les plans. Si on arrive à sensibiliser la population, d'abord, à connaître c'est quoi est bon la forêt, la faune et flore, j'espère que nous n'aurons pas de problèmes de pollution tout consort. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien, le monde a évolué. On n'utilise plus de braises de bois, mais on utilise des gaz et des réchauds. Mais chez nous, ici à Kinshasa, si vous arrivez, par exemple, du côté Maluku, du côté Kisensu, du côté Kimwenza, du côté Ntsele Daïten, vous trouverez des camions qui font entrer des braises à Kinshasa. Or, nous sommes dans une capitale qui est mieux capitalisée que d'autres pays dans le monde. Mais nous continuons à utiliser des systèmes archaïques, jadis, qui arrivent à détruire nos forêts. Et aujourd'hui, quand je vous parle, madame, si vous regardez bien, les ONG qui encadrent l'environnement ne connaissent même pas comment sensibiliser les gens sur le feu de la brousse. On brûle comme on veut, même des jeunes gens. Vous trouverez, nous avons un système ici en Lingala qui dit « N'aiko kangalaï taba ». C'est-à-dire, je vais attraper des souris, des rats de la brousse. C'est-à-dire, pour attraper cela, il faut brûler la brousse. Sans savoir protéger la brousse pour qu'un jour, nous ne puissions pas avoir des effets secondaires sur nos stations, hein, pour que peut-être on arrive à polluer notre environnement. Voilà un peu cela. Et le ministère de l'Environnement, à travers Mme Eve Bazaïba, qui hier était en train de crier tout haut quand elle était à l'opposition, voilà machin, on a fait ça, on a fait ça. Mais aujourd'hui, elle est dans les affaires. Mais comment il manque, comment sensibiliser les gens pour que nous puissions vraiment connaître la quintessence de la forêt et de la brousse?
Ok, voilà. Ben Benoît, nous avons tous compris que c'est un problème qui intéresse principalement la vie ou bien l'implication des gouvernants. Mais vous qui avez déjà compris l'importance du changement climatique, qu'est-ce que vous faites personnellement pour aider l'humanité à se porter mieux?
J'espère que vous ne pensez pas ignorer ou à des fois connaître mon nom. Ce n'est pas aujourd'hui. Je suis parmi les activistes des droits de l'homme et de l'environnement dans le monde et au Congo. Avant-hier, en 2020, ici, vous avez écouté, j'étais kidnappé au Congo. C'était dans le sens d'aller donner la conscience au peuple de la RDC et du Congo, à prendre la conscience, à se prendre en charge et à connaître la quintessence des droits de l'homme et des droits de la forêt. J'étais kidnappé jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à être sous les lits des malades. Tout cela n'envisage même pas ou n'entre pas dans la tête de nos dirigeants. Et si vous voyez en RDC, tout celui qui est en train de leur montrer le bienfait, c'est celui qu'on met comme un cible. On cherche comment les tuer, comment les dramatiser, comment les kidnapper, comment tout faire. Vous savez bien, M. Floriette Chebeya, Likenkoulou et les autres. Et qu'on sort, moi, quand je vous parle ici, je suis en train de parler parce que j'ai le courage d'un homme, mais je suis toujours sous les lits des malades. Et personne ne vient en aide, même le ministère des droits, humains ne vient en aide. Mais nous sommes en train de se poumonner corps et âme pour que la RDC puisse avancer. Et nous ne faisons jamais de mobiliser afin que notre pays puisse avancer. Voilà que ça.
Ok, nous vous remercions beaucoup de votre intervention et nous vous encourageons de continuer de faire ce que vous faites pour aider notre planète à se reverdir parce que c'est ce dont nous avons besoin. Ben Benoît, bonne soirée à Kinshasa. Bon, en dehors de Ben Benoît, nous avons eu d'autres personnes qui ont réagi sur notre page Facebook. Charles Bazema, pour lui, il est pessimiste vis-à-vis de la conférence, la COP26, qui se tient actuellement à Glasgow en Écosse. Il dit, comme les précédentes COP, nous n'attendons rien de concret. Et tant que ces puissances continueront à se faire des sous avec les usines de fabrication, alors que toutes les résolutions seront foulées au sol et puis à la négligence dans les prises de décision. Donc, c'est les dirigeants qui sont incapables de s'assumer vis-à-vis de grands pollueurs. C'est vrai qu'on parle des grands pollueurs, mais comme l'a bien expliqué Ben Benoît, chacun de nous, de son côté, peut aussi apporter sa pierre à l'édifice en faisant ce qu'il y a à faire pour éviter que la planète se réchauffe davantage. Alors, Pochukou Tahir, qui nous a écrit depuis le Tchad, le changement climatique fait ses effets sur les pays d'Afrique subsaharienne, entre autres le Tchad, comme l'avait déclaré plus tôt Saleh Mahamat. Donc, pour lui, il dit, nous subissons depuis des décennies dernières l'avancée à grands pas du désert, la disparition rapide du lac Tchad qui nourrit de plusieurs milliers de personnes, l'instabilité de la saison pluvieuse. Mais c'est vrai qu'en Afrique, on assiste à la disparition de plusieurs lacs, comme le lac Victoria, qui est en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, qui est en train d'être pollué et qui aussi est en train de disparaître à cause des ravages, parfois de la population qui ne connaît pas l'importance de préserver ce que nous avons comme écosystème. Donc c'est important de sensibiliser les gens autour de nous. Si nous savons ce qu'il faut faire, c'est vraiment très, très capital de dire aux autres aussi ce qu'il faut faire. Alors, nous allons parler avec Marie-Paul. Lui aussi souhaite s'exprimer. Marie-Paul Awa, je crois que c'est un homme, une femme. Je sais qu'Awa, c'est le nom d'une femme. Bon, c'est un homme, Marie-Paul. Bonsoir, Marie-Paul.
Bonsoir, madame.
Comment allez-vous?
Bonsoir à tous les auditeurs. Oui, je vais bien. Merci, madame.
Alors, qu'est-ce que vous attendez de la conférence de Glasgow?
Oui, madame, il faut d'abord préciser que les effets du réchauffement climatique n'épargnent aucun pays au monde. Alors, ce qui est évident, c'est que les conséquences de ces dérèglements climatiques se présentent de manière un peu différemment d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. Et si vous vous rappelez bien, depuis que ces conférences des parties ont commencé, à partir de celle de COP21 jusqu'à celle qui vient d'être débité le 31 ici. Et ça fait pratiquement beaucoup d'États que les États ont pris des engagements. Et pendant les déroulés de toutes ces conférences-là, les États se réunissent, ils échangent leur expérience de part et d'autre. Mais il s'est fait remarquer que bien des pays qui sont qualifiés de non-pollueurs pensent que le réchauffement climatique, c'est une affaire des pays industrialisés, c'est une affaire des pays développer, ce qui est totalement un raisonnement un peu déphasé aux réalités de tout ce que nous sommes en train de vivre, et nous qui sommes qualifiés, nous qui habitons les pays qualifiés des poumons du monde, nous avons les mêmes dérèglements, nous avons les mêmes problèmes, et que dans ces pays-là, nous subissons même des canines, nous subissons des effets liés justement à ces dérèglements climatiques. Alors, ceux-là, les pays qui sont qualifiés de pollueurs, nécessairement, ils devraient, comme ils demandent les pays non pollueurs, ils devraient payer. Mais ce qu'il faut faire voir, c'est que même les pays qui sont qualifiés de non-polluants ne peuvent pas baisser des bras, parce que nous ici, nous, moi j'habite la RDC, si nous voyons comment la déforestation bat son plein, voilà la manière dont on est en train d'exploiter la forêt, d'exploiter l'environnement, ça laisse quand même à désirer. Parce qu'aujourd'hui, si nous pouvons peut-être dire que les pays en développement disent que nous, écoutez, nous sommes pas, nous n'avons pas de problème, nous avons nos forêts, et que ces pays continuent à mettre en place des pratiques qui défavorisent justement la garde de l'écosystème, nous allons nécessairement assister à des catastrophes parce que nous ne saurons pas comment se tenir. De mon point de vue, je pense que des conférences pareilles, les pays en développement, les pays qui sont qualifiés des pays non polluants, doivent plutôt discuter avec les pays qui sont qualifiés entre guillemets des polluants, pour voir quelles sont les matières qu'il faut mettre sur pied pour sauvegarder l'environnement. Parce que si aujourd'hui ces phénomènes n'ont pas de frontières, et lorsqu'il y a des règlements, peut-être tous les pays qui sont exposés, mais ils doivent discuter pour prévenir l'humanité, pour se prévenir nous aussi, parce que si nous continuons avec cet allure et que nous commençons à faire, il n'y a même pas un système dans les pays qualifiés de
Marie-Paul, qui ne sont pas polluants. Marie-Paul, effectivement, oui. S'il y a des conférences comme celle de Glasgow actuellement, c'est pour que tous les pays discutent de ce qu'il faut faire. Mais je retiens ce que vous avez écrit sur notre page Facebook, que selon vous, les pays qualifiés de poumons du monde doivent gérer efficacement leurs forêts. Alors, comment pensez-vous que ces pays vont faire pour gérer leurs forêts de façon efficace? Que doivent faire ces pays?
Oui, ces pays doivent d'abord s'approprier tous ces engagements pris lors des sommets, lors des conférences. Parce qu'aujourd'hui, si ces engagements ne sont que pris pour la beauté des faits, pensant que les dérèglements climatiques, les réchauffements climatiques, c'est une affaire des pays industrialisés, c'est vraiment une aberration totale. Et ces pays-là doivent comprendre que c'est un phénomène qui n'est pas aucun pays. Il faudrait que ces pays mettent en place des politiques de sauvegarder l'environnement, de sauvegarder les terres, les forêts, de mettre en place cette politique de reboisement. Et chez nous, ici, on est en train de battre les arbres comme on veut. Il y a beaucoup des titres qu'on donne aux gens et les gens sont en train d'exploiter. Il y a même des activités d'exploitation minière qui polluent même l'eau. Nous avons un problème de pollution d'eau ici. Et toutes ces pratiques démontrent en suffisance que les dirigeants des pays en développement, des pays qui sont qualifiés des poumons du monde, ne comprennent pas que nous sommes devant une urgence, nous sommes devant une réalité naturelle que tous les pays, quels que soient ceux-là qui se dédouanent au motif qu'ils ne sont pas pollués parce qu'ils n'ont pas d'industrie, nous tous, là, tous ces pays doivent se mettre la main dans la pâte pour essayer de sauvegarder l'environnement, parce que la situation n'épargne aucun pays, comme je viens de le dire. Mais ce qui est vraiment une aberration, c'est que les pays en développement ne savent pas justement respecter les règles de l'environnement, les règles de sauvegarder les forêts, ainsi de suite, ce qui est une catastrophe naturelle.
D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Paul. On retient que nous sommes devant une urgence et effectivement, c'est ce que, en tout cas, c'est ce qu'affirment les organisateurs de la COP 26 à Glasgow. C'est une urgence. Mais est-ce que Bourama Oubda pense la même chose? Bonsoir, Bourama. Allô? Oui, pour vous, le réchauffement climatique est la conséquence directe de l'évolution de la technologie. Qu'entendez-vous par là?
Non, pour ma part, le réchauffement climatique est la conséquence directe de l'évolution de la technologie. Si on voit actuellement l'essor même des grandes usines, puisque chaque année de part, de gauche à droite, dans les pays développés comme dans les pays sous-développés, on ne voit que la création de grandes entreprises, voire même des usines. Or, ces usines ne sont que polluées. C'est même pas le fonctionnement de l'usine même d'abord. Si on va déposer des usines, par exemple les usines d'automobiles, les usines de vélomoteurs, ce qu'ils les véhicules, ça veut dire qu'ils ne font que réchauffer seulement l'environnement. Si on met de côté même le réchauffement, le fonctionnement de l'usine, c'est un grand danger.
Bon, donc, si nous suivons votre raisonnement, cela veut dire qu'on ne peut même pas penser réduire les effets de serre. Donc, ça ne sert à rien de penser même à cela.
Voilà, pour qu'on parle de minimiser le réchauffement climatique, il faut réduire d'abord les usines, les grandes usines. Mm-hmm.
Voilà. Donc c'est ce que vous pensez qu'il faut réduire. Mais vous dites aussi que si on continue sur cette lancée, la planète entière va s'éclater un jour.
Oui, en tout cas, moi je suis sur le fait que je suis travaillé avec ces astronomes.
Et donc qu'est-ce que vous pensez de là?
Puisque selon les astronomes, on dit que chaque minute ou chaque heure comme ça, au moins quelques centimes de degrés s'ajoutent.
Alors, selon vous, quel est alors...
Donc, imaginons dans 100 ans, 200 ans, 300 ans, si au moins si 0,01 degré qui s'ajoute, à multiplier par 100 ans, ça va donner combien? Donc, on va se retrouver avec des 42, des 45 ou des 50, voire même 60. En ce moment, la Terre risque de disparaître en une seule seconde.
Mais selon vous, quelle est alors l'importance des conférences comme celle de Glasgow?
Vous dites?
Quelle est alors l'importance des conférences comme celle de Glasgow? À quoi servent-elles?
Bon, moi, je vois que la conférence bon, n'a peu d'importance. Je veux dire, ils ne sont même pas au fond même du problème. Je veux dire, les décisions seront faites, mais est-ce que l'application sera là? C'est ça le problème.
Ok, d'accord. Donc... Bon. Pour vous, c'est l'application qui pose plutôt problème. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous faites pour réduire?
Voilà, le problème, c'est l'application des décisions issues de la conférence.
Mais personnellement, est-ce que vous faites quelque chose pour réduire le réchauffement climatique à votre niveau?
Voilà, c'est ça exactement. Chaque personne doit faire un effort pour réduire le réchauffement.
Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous faites?
Comme moi?
Oui, qu'est-ce que vous faites personnellement?
Bon, personnellement, il faut revoir le reboisement. De notre côté, il y a le reboisement d'abord.
Et vous plantez les arbres?
Utiliser les nouveaux moyens de transport, on ne peut pas en passer, mais au moins, on peut réduire. Puisque il y a des fois, il y a des distances, en fait, tu sais que non, avec cette petite distance, tu n'as pas besoin de démarrer un moteur. Tu peux aller soit à pied, soit avec un autre engin pour ne pas polluer encore l'environnement de pied.
Ok, nous vous remercions d'avoir partagé votre point de vue avec nous. Monsieur Bourema, bonsoir, au revoir. Alors, nous avons Daniel Tisungu Famb, lui depuis le Kasaï. Il pense qu'avoir observé le changement climatique par des températures plus élevées suite à la déforestation, comme l'ont dit certains auditeurs qui nous ont appelés depuis la RDC. Donc lui aussi, il incrimine la déforestation en grande partie des forêts. Et les cultivateurs qui ne savent plus quoi faire, ils travaillent beaucoup mais récoltent peu en l'absence d'un système de météo sur l'ensemble des territoires parce que même la météo est aussi désaxée. Les pluies qui tombaient à une certaine époque ne tombent plus à ce moment-là. Donc, du coup, on ne récolte plus assez. Et Alphonse Mbouaki, qui nous a écrit aussi depuis la RDC, lui, il apporte plutôt des pistes de solutions. Il assure qu'il faut mettre en place une transition énergétique à carbone zéro, par exemple, taxer fortement les émissions de dioxyde de carbone afin de pousser les entreprises, les engins de transport, les multinationales à décarboniser l'environnement en utilisant des énergies propres ou des nouvelles énergies. Bon, en tout cas, ça, c'est une solution à laquelle beaucoup de pays ont déjà pensé, notamment en Europe. Il y a des pays qui ont déjà mis en place la taxe que les grandes entreprises doivent payer pour avoir émis beaucoup de carbone. Et beaucoup de multinationales s'engagent également à décarboniser leurs activités. Et Alphonse Mbouaki ajoute que les plus grands pollueurs doivent cesser d'exploiter le charbon, le pétrole, leurs dérivés et remplacer certains moteurs par des moteurs électriques, des moteurs biocarburants. Merci d'avoir suivi notre émission. C'est la fin. Je suis Nanit Talani. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph. À la réalisation, nous avions Chang. Bonne suite des programmes sur nos antennes.